Anthony Dacosta, carreleur spécialisé dans la céramique et les salles de bain clés en main, vous donne l'heure sur Inside. Il est 19h. Le Cop Inside, 19h-20h30. Retrouve toute l'actualité sportive des Pyrénées sur Radio Inside. 19h-20h30. Résultats, analyses, interviews, invités. Tous les sports à tous les niveaux sont dans le Cop Inside. Présenté par Xavier Gros-Claude avec Olivier Garcia, Marc Logini et Mathilde Fou.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Inside. Je m'appelle Xavier Gros-Claude et je vous accompagne jusqu'à 20h30 pour l'émission en direct, comme chaque lundi, le COP Inside, avec le COP au grand complet ce soir. À ma gauche, Olivier Garcia. Salut Olivier.
Salut Xavier, salut à tous.
Ça va Olivier?
Très bien, j'ai passé une bonne journée.
Impeccable, je suis ravi pour toi.
Non mais c'est, j'ai l'impression que c'est le moment où on raconte les journées. Là.
Oui,
moi,
oui.
Mes chiens.
D'accord.
Un nouveau chien,
super, ravi.
Voilà, j'embrasse.
On le salue.
Si tu m'écoutes, ouais, voilà.
Parfait. Mathilde Faux est là, elle aussi. Salut Mathilde.
Salut Xavier, bonsoir à tous.
Ça va Mathilde? Comment vont tes chiens?
Pas de chien à sortir. J'ai mon chat.
D'accord.
Qui louche, mais qui te... Hein, voilà.
Marc Logini est là avec nous ce soir aussi. Salut Marc.
Salut à tous. J'ai pas d'animaux, moi.
Pas d'animaux, d'accord, voilà, ok. Bon, je vous rassure, on va pas parler de chiens et de chats pendant toute la soirée. On va parler sport avec nos deux invités qui représentent le guidon cyclo-sportif pyrénéen, à commencer par le président Benjamin Lacaze. Bonsoir Benjamin.
Et bonsoir à tout le monde.
Et merci d'être avec nous ce soir dans le COP Inside. On remercie également et on salue aussi Cyprien Lantôme. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir.
Ça va Cyprien?
Toujours.
Parfait. Bon, on est parti donc avec vous pour parler de cyclisme pendant une grande partie de cette émission. Ce sera le long format pour cette première partie du COP Inside. Vous retrouverez bien sûr toutes les chroniques animées par Marc, par Olivier et par Mathilde. Marc, tout d'abord, que l'on retrouvera avec le chiffre du COP. En deux mots, Marc, en quoi ça consiste?
Ouais, comme j'ai été brillant la semaine dernière, on m'a reconfié le chiffre du COP. Je suis désolé de piquer ta place.
Ça me va très
donc
bien.
C'est un chiffre qui a marqué l'actualité sportive du week-end sur le 65 ou le 64. Donc à vous de, je vais vous faire jouer un petit peu pour deviner quel est ce chiffre.
Et Dieu sait que Marc est bon dans ces petits jeux là, donc ne le loupez pas, c'est aux alentours de 19h35. Le Labo du COP, l'une de ces chroniques évidemment que l'on retrouve chaque lundi, le Labo du COP consacré ce soir au Stade TPR pour les amateurs de rugby en Fédéral 1 ce week-end, un derby assez houleux, c'est le moins qu'on puisse dire, entre le Stade et Lannemezan sur le terrain, en tout cas sportivement parlant, c'est le Stade qui l'a emporté 36-3. On en parlera tout à l'heure avec le capitaine du Stade, Albin Méron. Il y a eu quelques incidents quand même pendant ce match, plusieurs cartons rouges, 8 précisément pour des joueurs, des entraîneurs. Ça a été un peu chaud du côté de Maurice Trélu ce week-end. Donc on parlera bien sûr de rugby, vous l'aurez compris. On dira peut-être un petit mot de la section paloise également qui jouait ce week-end et qui forcément n'a pas fait le bonheur de nos spectateurs et supporters de rugby en Béarn. Et Mathilde, d'ailleurs, on te retrouvera à ce moment-là pour tout ce qui concerne les réactions sur les réseaux sociaux. C'est justement les échos du COP, cette chronique, Mathilde.
Oui, tout à fait. Donc, on va parler 100% rugby ce soir. Le rugby qui n'a pas été très brillant malgré la victoire de Tarbes samedi, mais on en reparlera tout à l'heure avec les réactions des supporters pas très contents.
C'est ça. Le kiff et la gifle avec Olivier Garcia, une chronique finement préparée ce soir que vous retrouverez aux alentours de 20h comme d'habitude avec Olivier qui est en grande forme. Le kiff et la gifle, donc c'est le billet d'humeur à Olivier,
ce qui t'a plu, c'est ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé dans la semaine qui s'est écoulée là, donc voilà, il est prêt, hein, y a pas de souci.
Super, donc rendez-vous à 20h pour le kiff et la gifle. Et en deuxième partie, et en fin d'émission plutôt, la dernière demi-heure, on aura notamment le quiz du COP présenté par Marc. On va parler de hand ce soir.
Exactement. Puisqu'on n'a pas trop parlé de hand cette année, donc on va faire un petit focus sur le billard handball.
Très bien. Et on terminera cette émission par le COP et match. On parie sur les prochains matchs des équipes béarnaises et bigourdanes. Marc, ce soir, on pariera sur du rugby.
Exactement. Donc voilà, je vous dirai de quelle division il s'agit. On verra ça tout à l'heure.
Donc 20h25 pour la fin de cette émission et la chronique COP et match. Tout au long de cette émission, vous pouvez bien sûr nous contacter via les réseaux sociaux. Mathilde va vous expliquer dans quelques instants en quoi ça consiste. Mais tout simplement, vous pouvez poser des questions à nos invités qui sont là ce soir et qui représentent le guidon cyclo-sportif pyrénéen. N'hésitez pas donc à leur adresser des questions, des petits messages d'encouragement, de félicitations, des petits messages perso aussi, s'il y a des petits messages à faire passer, c'est le moment pendant cette émission. Ça se passe sur les réseaux sociaux, Mathilde.
Oui, alors sur la page Facebook et Instagram de l'émission, le COP Inside, vous pouvez aussi nous appeler au 05 59 84 02 16 ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante sport@radioinside.com.
Voilà, les réseaux sociaux, l'adresse mail que vous a donné également Mathilde, c'est, Ce sont autant de moyens pour nous contacter, participer à cette émission si vous le souhaitez, parler de votre association sportive, de votre club, quel que soit le niveau, quel que soit le sport, tant que ça reste dans le Béarn ou dans la Bigorre, on se fera un plaisir de vous accueillir ici dans les studios de Radio Inside. Allez, on va marquer une courte pause, on va se retrouver dans quelques instants avec nos deux invités du guidon cyclo-sportif pyrénéen. À tout de suite sur Radio Inside.
Le Cop Inside, l'émission sportive de ta radio locale, tous les lundis. Tous les sports à tous les niveaux sont dans le Cop Inside. Présenté par Xavier Grosclaude, avec Olivier Garcia, Marc Lougini et Mathilde Defoe. Le Cop Inside, 19h-20h30, tous les lundis.
Vous écoutez le Cop Inside en direct, bien sûr, sur la radio qui porte le même nom, Radio Inside, que vous écoutez à Pau sur le 99.8 dans le Béarn également, sur le 88.7 à Tarbes et en Bigorre. Le Cop Inside donc en direct jusqu'à 20h30 avec l'équipe des sports au grand complet, Mathilde, Marc, Olivier, et avec nos deux invités qui représentent ce soir le guidon cyclo-sportif pyrénéen que nous abrégerons GCP ce soir, hein, ça sera plus simple. On rappellera quand même le nom du club tout au long de cette émission. Donc Benjamin Lacaze, le président, et Cyprien Lantôme qui est en charge de la cellule course pour le club du GCP. Première question très très simple pour tous les deux, et vous allez y répondre à tour de rôle. Il va falloir vous présenter un petit peu à nos auditeurs. Qui êtes-vous? Quel âge avez-vous? Que faites-vous dans la vie? Et la question va être posée à toi en premier, Benjamin.
Bonjour à tout le monde. Donc Benjamin Lacaze, 46 ans, marié, deux enfants, et actuellement président du GCP, donc l'abréviation du guidon cyclosportif pyrénéen, club très facile à dire, et club donc de vélo que l'on a créé en 2008. Donc on attaque notre 12e saison, et donc on essaie d'animer cette association sportive, de la faire vivre dans le Béarn et dans les départements voisins. Et maintenant je passe le micro à mon cher collègue Cyprien.
Allez, à toi de jouer, Cyprien.
Bonjour à tous, Cyprien Lantôme, donc j'ai 29 ans, je suis marié aussi, et j'ai 4 enfants. Et je suis supporter marseillais.
À 29 ans ?
À 29 ans.
Oh, t'as pas chômé ?
Il y en a qui réussissent.
Moi j'ai 28 ans, j'ai un chien.
Deux, non ? T'as pas dit que t'as deux chiens,
mais c'est vrai.
Et ce que je fais dans la vie, c'est du vélo, j'aime bien être sur une selle et pédaler. Et parfois sans. Et donc on vient vous parler du GCP. J'ai rejoint le club il y a 3 ans. Mmh. Et j'essaye d'animer les compétiteurs, ceux qui veulent faire des courses, gagner, d'accord, des trophées et ramener des bouquets à leurs femmes. Ouais.
Donc tu t'occupes de la cellule course, c'est ça? En quoi ça consiste?
Ça consiste à essayer de fédérer les gens autour des courses UFOLEP et essayer d'aller en grand nombre avec le club pour essayer de gagner et donc faire des courses d'équipe.
Okay.
Et c'est ça ce qui nous fait plaisir au quotidien.
Donc toi, depuis 3 ans au GCP. Benjamin, toi, depuis la fondation, c'est ça? Tu es président depuis la création du club?
Tout à fait, je suis un des membres fondateurs. Pour préciser un petit peu les activités du club, donc on est orienté sur 2 activités principales. La participation donc à des courses, on est affilié à la fédération UFOLEP, donc on va dire c'est des courses de village, les courses et les tourniquets comme on dit vulgairement. Donc différents clubs vont organiser dans la région le 64, 65, 40, et on va faire ces courses là. Donc ça c'est une des activités du club, et l'autre activité c'est la participation à des épreuves cyclosportives là, qui sont plus des épreuves longue distance. Mmh. Comme on peut le connaître notamment sur Pau avec l'étape du Tour, la autoroute des Pyrénées, donc ces épreuves beaucoup plus longues avec beaucoup plus de cols, longues en kilomètres. Et donc nos licenciés se regroupent autour d'une ou l'autre de ces 2 activités. Donc on essaie de fédérer nos licenciés autour de ces 2 activités-là et de leur proposer des choses dans tout le Sud-Ouest, voire même à l'étranger, plus ça nous arrive d'aller parfois en Espagne concourir ou hors des frontières du Sud-Ouest.
D'accord. Bien entendu, on reviendra un petit peu plus en détail sur le club et les événements organisés dans quelques instants, juste pour continuer un petit peu cette présentation. Dans le milieu du cyclisme, avant le guidon cyclosportif pyrénéen, toi-même, Benjamin, tu faisais déjà du vélo dans un autre club peut-être, ou c'était une nouvelle vocation qui est arrivée à ce moment-là?
Non, j'ai un passif de cycliste, mais lorsque j'étais beaucoup plus jeune et surtout étudiant, où je faisais pas mal de courses à l'époque, et j'ai dû stopper complètement l'activité en raison de ces mêmes études, pour reprendre, on va dire, une fois la quarantaine approchante, et essayer de refaire un petit peu de sport, et je me suis remis sur mon vélo, et c'est à partir de là qu'est venue l'idée de faire un club de l'EGCP, avec d'autres membres bien évidemment, et on a eu l'idée de faire ce club, de se remettre en selle au propre comme on figurait, et puis de refaire des activités autour du monde associatif, qu'on connaissait pas du tout. Donc c'est revenu sur le tard de faire du vélo, mais à un niveau beaucoup moindre et beaucoup moins sportif. On va dire qu'on fait aujourd'hui avec les moyens du bord, en conciliant les aspects sportifs et le contexte familial aussi.
D'accord. Cyprien, de ton côté, le passé dans le milieu du cyclisme
Moi je fais du vélo depuis 18 ans, depuis l'âge de mes 18 ans. Mmh. Et je viens de Marseille, j'ai roulé à Marseille, j'ai roulé avec le Vélo Club La Pomme, qui est une équipe en continental actuellement.
Et sinon, ton viadou
de Marseille. Non, c'est hyper important dans cet univers bernais où il pleut, où il fait froid, de rappeler qu'il y a d'autres pays sympathiques.
C'est vrai qu'hier, il faisait froid. Ça.
Est-ce que vous pratiquez ou avez pratiqué d'autres sports, Cyprien, toi?
C'est interdit. Ouais. C'est un art, le cyclisme, on peut faire que ça. Non, en général, on tourne autour souvent des sports comme le triathlon. On fait aussi de la course à pied avec le club le mercredi soir.
D'accord.
Et puis après, il y en a qui font d'autres sports obscurs.
Ok. Et est-ce que tu t'intéresses aussi à titre personnel à d'autres sports?
Ah oui, forcément. Ouais. Je regarde le football en priorité, qui est le seul vrai sport à regarder. Et après, je regarde...
Ça n'engage que toi, est-ce que tu dis là?
Je regarde aussi le sport d'ici, qui est le rugby. Et puis le tennis de temps en temps.
D'accord. Et en ce qui te concerne, Benjamin, d'autres sports pratiqués actuellement ou que tu as déjà pratiqués, auxquels tu t'intéresses?
Ah oui, bon, je suis pas mal l'activité sportive du coin. J'espère qu'on pourra intervenir sur les résultats du week-end, tant en Berne qu'en Bigorre.
Bien sûr.
Il y a pas mal de choses à dire. Ouais. En ce qui me concerne, oui, je pratique toujours la pelote. J'essaie de jouer régulièrement au trinquet. Et après, donc, avec le club, j'essaie de maintenir, surtout pendant l'hiver, une forme en faisant des footings, des entraînements. Et puis, ça nous arrive, avec certaines, de faire donc du trail, certaines courses à pied avec des semis ou voire des marathons ou des 10 km. Et des triathlons aussi. Il y en a certains licenciés qui font du vélo, mais pas que. Et donc, qui se servent de nos entraînements pour développer des sports parallèles.
D'accord. Est-ce que vous avez une réussite particulière, un meilleur souvenir là, qui vous vient depuis que vous êtes au GCP, au guidon cyclosportif pyrénéen? Allez Cyprien, peut-être que ça te vient comme
pour ça. Pour la première fois de ma vie, je gagnais une vraie course.
Ouais.
J'ai gagné le championnat départemental. Bon, on était quatre au départ.
Ouais, mais c'est quand même.
J'ai gagné avec le
ça.
Maillot du GCP, c'était vraiment sympathique. Ouais. J'ai pu ramener des fleurs à ma femme, elle était contente.
Parfait. Et toi, Benjamin?
Je sais pas si elle a de bons souvenirs.
Ça doit en faire, des souvenirs. Depuis,
pour être franc, ça fait très longtemps qu'elle a pas vu un bouquet à la maison.
C'est très bon, ça.
Et pourtant, il y a la Saint-Valentin, mais d'un point de vue sportif, non, il n'y a pas eu grand-chose. Souvenir. Ouais, je pense que la dernière étape du Tour qui a eu lieu à Pau il y a maintenant 5 ou 6 ans. Donc, c'était une étape Pau qui, avec l'arrivée en haut de Hautacam, en passant donc, on va dire, par tous les côtés du coin avec le Tourmalet, donc l'arrivée à Hautacam. C'est une épreuve qui n'est pas du tout faite pour moi puisque j'ai vraiment un gabarit de non-grimpeur et donc qui a nécessité une préparation de longue haleine et puis bon, la satisfaction d'arriver au bout et de la satisfaction personnelle de ce défi et puis d'arriver à des choses qu'on pense au début pas forcément réalisables.
Pour terminer cette présentation, on a l'habitude de le faire avec nos invités, surtout quand ils viennent au nombre de deux, c'est beaucoup plus facile. Un petit portrait croisé, c'est-à-dire que Benjamin, est-ce que tu peux me donner une qualité, un défaut de Cyprien, et après on posera la même question à Cyprien pour toi.
Alors qualité, je vais en donner deux, je veux dire jeune et dynamique. Défaut, c'est compliqué. Qu'il attaque trop dans les côtes.
D'accord. À toi Cyprien.
Qualité de Ben, c'est qu'il est toujours motivé pour avancer dans le club et c'est important aujourd'hui dans le milieu associatif de vouloir toujours organiser et relancer les gens. Et le défaut, c'est que il avance plus trop sur le vélo et qu'on fait des petites sorties. Quoi.
D'accord. Bon, je crois qu'on vous connaît bien maintenant. On va parler du club. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que nous sommes avec Benjamin Lacaze, président du guidon cyclosportif pyrénéen, et Cyprien Lantome qui s'occupe de la cellule course dont on parlera également tout à l'heure, bien sûr. Le club, le GCP, Benjamin, c'est combien de licenciés aujourd'hui?
Au jour d'aujourd'hui, chose qu'on ne dit pas, mais à ce jour, donc on est, je crois, 33 voire 34 licenciés, puisqu'on a encore des adhésions en cours.
D'accord.
Et j'ai 34 en tête. Mm-hmm. Donc on est toujours autour dans cette moyenne-là. On essaie de rester un effectif dans cet ordre-là, tout simplement pour conserver une taille humaine au club, faire en sorte que tout le monde se connaisse, qu'on arrive à savoir qui est qui, ne pas être perdu au milieu d'un club de 500 personnes. Et puis aussi parce que le monde cycliste, c'est pas forcément l'univers dans lequel il y a le plus de licenciés.
D'accord. Tu étais venu il y a quelques années de cela, je sais pas combien de temps exactement, mais dans cette même émission, il y a très très longtemps, justement, pour parler du guidon cyclosportif pyrénéen. Comment ça a évolué, justement, depuis à la hausse, au niveau des licenciés, plus d'activités
Depuis la dernière fois, je pense qu'on est à l'époque du Minitel, peut-être,
oui,
encore.
C'est ça.
Ouais, j'avais des cheveux encore. J'avais encore des cheveux. Ah, si on attaquait sur les couvents, on va pouvoir s'amuser.
Pas de problème.
J'attends de voir la chronique qui a été bien préparée pour faire des commentaires tout à l'heure. Et le club a évolué, on va dire qu'en termes d'effectifs, il est à effectif plus ou moins constant. Ouais. Autour des activités, on reste sur ce même critère-là. Nous, ce qui compte le plus, c'est de la convivialité, de trouver un bon esprit. On ne cherche pas forcément la gagne, mais juste à se faire plaisir. Et après, au niveau des organisations, donc on a créé, oui, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'était nos premières éditions d'une course. Et la chose que l'on reconduit cette année, mais dans un nouveau lieu, nouveau contexte. Donc c'est un petit peu les choses qui évoluent aujourd'hui.
D'accord. Olivier.
Oui, j'ai une petite question qui est, c'est sûr, pertinente. Comment s'organise une semaine type dans le club? Est-ce qu'il y a des entraînements tous les jours? Est-ce que c'est des sorties chaque week-end? Comment ça marche?
Alors, en attendant un contact de Vincent Lavenue, de l'équipage E2R ou de Marmadio, de la FDJ, on n'est pas encore en mesure de pouvoir se préparer et s'entraîner tous les jours.
C'est plus du tout Vincent Lavenue à la G2R, mais bon, c'est pas grave.
Si, c'est toujours le directeur général de la G2R. Bon, c'est pas et pas de soucis. Et donc, oui, non. Certains ont plus de temps pour se préparer que d'autres, donc là on essaie de faire des entraînements par défaut tous les week-ends. On essaie de proposer aussi notre sortie le mercredi soir pendant l'hiver, et les horaires d'hiver c'est un footing, et une fois qu'on va basculer sur les horaires d'été, c'est des sorties plus courtes puisque ça se fait le soir après le travail. On est une majorité de licenciés qui travaillent tous, qui sont étudiants, avec des horaires plus ou moins flexibles. Donc on a des entraînements uniquement le week-end et le mercredi soir en semaine. Par contre, après, depuis un peu plus d'un an maintenant, on a mis en place un groupe WhatsApp et qui permet à tous les licenciés de dire « j'ai un créneau tel jour, telle heure, et s'il y en a d'autres qui sont intéressés, voilà, ils peuvent se rejoindre et se regrouper comme ça. » Mais sinon, d'un point de vue très structuré, les entraînements, c'est le mercredi soir le footing et le week-end la sortie club. Et s'il y a des possibilités, on fait d'autres choses, enfin d'autres sorties, et surtout avec le changement d'heure, c'est là qu'on pourra proposer plus de choses.
Ouais. Merci Olivier pour cette question très pertinente et pour ta remarque de tout à l'heure. J'espère que ta chronique est un peu mieux préparée que cette.
Non, c'est plus directeur sportif, c'est directeur général. Mais voilà.
Au niveau des licenciés, justement, plus d'une trentaine, Cyprien, tu dois les connaître certainement. La répartition à peu près entre les hommes, les femmes, les jeunes, les adultes,
C'est facile à répondre. Ouais. Pour les femmes, je crois qu'il y a 2 licenciés officiels aujourd'hui.
D'accord.
Et c'est surtout les hommes. Mais par contre, on a essayé de monter une section féminine. C'est un peu difficile de trouver des femmes qui veulent venir faire du vélo avec nous.
Mathilde, est-ce que tu es intéressée?
J'aime bien le vélo, mais du coup, ça fait un peu loin pour moi.
Il faut juste prendre le vélo et venir rouler avec nous.
Voilà. Et entre les jeunes et les adultes, c'est quoi la répartition? On n'est que sur des adultes?
La moyenne d'âge, le président l'avait fait lors du dernier, la dernière AG. Je crois qu'on tournait autour de 40 ans.
D'accord. Mais vous avez des moins de 18 ans ou pas
Non, pas du tout. D'accord. Le plus jeune, il doit avoir 22 et le plus âgé, 70.
D'accord. C'est toi, Benjamin, ou pas?
Là, t'as gratuit
encore. Et l'objectif, c'est d'avoir un niveau qui est à peu près homogène pour se faire plaisir et pouvoir rouler ensemble lors des entraînements. Et après, dans ce qui était structurant, on a les courses. Donc, on a un calendrier de courses qui est établi en début de saison et on essaye de se mutualiser pour pouvoir aller faire les courses et gagner des bouquets.
Marc, une question.
Du coup, est-ce que tous les licenciés font des courses ou certains ne font que des entraînements?
Donc, sur les 34 licenciés aujourd'hui, il y a 17 licenciés qui ont pris des licences spécifiques pour aller faire les courses UFOLEP. Et après, on peut faire les courses cyclosportives. Donc là, c'est une inscription à chaque course. Et là, c'est un peu plus... C'est surtout les âgés comme Ben qui viennent rouler sur les courses tranquilles les week-ends. Ouais.
Comme le disait Benjamin, vous êtes aussi axé sur le côté convivial, le fait de rester, on va dire, un petit club, entre guillemets, où vous connaissez un petit peu tous, c'est ça, c'est un groupe de personnes qui se connaissent bien, qui s'entendent bien.
On essaye de discuter, de faire des blagues intelligentes, de se raconter nos vies sur le vélo. L'avantage du vélo par rapport à d'autres sports, c'est de pouvoir rouler ensemble et de discuter, et c'est ça aussi qui est plaisant, de découvrir la région. Je pense qu'on a fait à peu près toutes les routes du coin, même si des fois on arrive encore à en découvrir, et tout en discutant ensemble sur le vélo.
Olivier, une question.
Justement, tu parles de découvrir toutes les routes. Alors, c'est vrai que le cadre est quand même assez joli dans les Pyrénées. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes justement de sécurité au niveau des courses tout ça?
C'est toujours la difficulté, c'est toujours le défi, c'est de proposer des parcours. Donc, on essaye de prévoir à l'avance les parcours pour essayer de minimiser le risque. Par exemple, prendre des grandes départementales, des grosses lignes droites, on va essayer d'éviter pour aller chercher les petites routes. Mais le risque est toujours présent et nous, on a l'impression, alors c'est très subjectif, que les automobilistes, les automobiles, les camions font pas trop attention au vélo ou n'ont pas conscience de la vitesse à laquelle on peut aller quand on rentre dans des ronds-points ou quand on roule en groupe.
Benjamin, tu voulais ajouter quelque chose peut-être?
Ouais, juste sur la fréquentation, même si on est en pleine campagne municipale, j'essaie de pas faire politique. Non, mais c'est vrai que la ville de Pau est très mal lotie au niveau des pistes cyclables, même si nous, on a plus tendance à sortir de la ville pour fréquenter les petites routes du département. Et donc, il y a des moments, il y a de l'insécurité, mais on peut avoir partout, on peut se faire renverser en sortant de chez nous, donc c'est pas propre au vélo, même si on est plus accidentogène que d'autres sports. Mais il y a quelque chose qui se démocratise de plus en plus, notamment c'est le cas en Espagne, c'est l'utilisation de lumière sur les vélos et même de jour. Donc c'est quelque chose que vous avez tendance sûrement à voir et qu'on pratique et fait qu'on l'utilise de plus en plus, à savoir en permanence avoir une lumière qui clignote pour attirer l'attention. On n'est pas encore à la phase où il faut mettre son gilet jaune sur le vélo quel que soit le temps, même si c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, mais le fait d'utiliser une lumière, ça peut être parfois utile et c'est pas forcément quelque chose de très onéreux.
D'accord. On est bien que sur du vélo sur route et pas du VTT, il n'y a pas de...
Alors non, on est spécialisé sur le vélo sur route. Pour le VTT, ça nous arrive de faire des sorties, d'accord, justement l'hiver, quand il fait très, très mauvais, qu'on a plusieurs week-ends d'affilée avec un temps médiocre, donc on va proposer de faire une sortie VTT, mais non, on n'est pas du tout spécialisé là-dedans, il y a des clubs qui le font beaucoup mieux que nous.
Merci à tous les deux, on va vous retrouver dans quelques instants juste après une courte page de pub. A tout de suite sur Radio Inside.
Rejoignez le Cop Inside sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, le Cop Inside. Le Cop Inside.
Il est 19h28, vous écoutez Radio Inside, l'émission Le Cop Inside en direct jusqu'à 20h30, toujours avec Olivier, Mathilde, Marc et nos deux invités qui représentent le guidon cyclo-sportif pyrénéen, Benjamin Lacaze, le président, et Cyprien Lantôme, qui est responsable de la cellule course pour ce club. Justement, ce club du guidon cyclo-sportif pyrénéen, Benjamin, où est basé son siège social? Il est rattaché à quelle commune? Vous pouvez être, j'imagine, de plusieurs... plusieurs endroits dans le...
Alors, les grands locaux du GCP sont basés à mon domicile.
D'accord, ok.
Voilà, donc à Pau même. Ouais. Donc voilà, donc il y a juste une adresse pour une adresse postale et on n'a pas de bâtiment ou de
locaux dédiés. Il n'y a pas de foyer ou autre. Il n'y a pas de foyer,
rien du tout. Okay. Pas encore, peut-être. Ouais. On fera un appel au don à Monsieur Bayrou s'il est réélu. Ouais.
D'accord. le budget d'un club comme le GCP, ça représente combien?
Bonne question. Pour le moment, on est un club qui est comme beaucoup d'autres, qui a beaucoup de mal pour trouver des partenaires et des mécènes. Ce que l'on essaie de faire, c'est de trouver, d'aider nos licenciés à porter nos couleurs et pour porter les couleurs de nos rares partenaires qu'on affiche sur nos tenues. Donc, on a des sponsorings qui sont autour de, on va dire, de 2000 euros, d'accord, pas plus. Après, bon, c'est beaucoup d'argent, mais qui est investi par les licenciés pour s'acheter des tenues. Ouais. Pour faire les déplacements sur les courses, pour s'inscrire aux courses. Donc là, suivant les moyens et les finances du club, on essaie d'aider nos compétiteurs en faisant des inscriptions, grouper, de prendre part à ces inscriptions. Mais c'est beaucoup de fonctionnement sur nos fonds propres et pas du tout grâce à l'association parce qu'on a très, très peu de moyens.
D'accord. Et justement, par rapport aux tenues, en plus, c'est facilement reconnaissable. Moi, je vous fais la réflexion des fois en passant en voiture à côté de certains d'entre vous. C'est ce blanc, orange, noir, vert un peu, c'est ça. C'est quand même assez visible par rapport à d'autres maillots qui peuvent être assez neutres.
C'est exactement ça, ce sont tout à fait les couleurs du club. On essaie justement d'avoir des tenues qui flashent bien. On a une identité qui est maintenant très reconnue dans les pelotons et dans le sud-ouest, qu'on essaie de conserver là-dessus. Donc ouais, on est un bon média, un bon vecteur de communication, mais il reste à avoir un carnet d'adresses ou des partenaires qui viennent nous contacter pour faire du mécénat, en sachant que c'est du gagnant-gagnant pour le mécénat, parce que même aussi on a tout intérêt à le faire. J'en profite, partenaires, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter Radio Inside, qui se fera le plaisir de nous passer vos coordonnées.
Bien entendu, avec grand plaisir. Le message est passé en tout cas. Justement, pour rester sur la partie finance, le côté cotisation annuelle ou licence, ça représente quoi, Cyprien? Peut-être que tu peux nous...
Alors, la cotisation au club est symbolique, elle est de 1 euro. D'accord. Puis après, il y a une cotisation obligatoire pour nous assurer lors des sorties.
Oui.
Il y a une cotisation de l'ordre de 40 euros auprès du FOLEP, juste pour venir rouler avec nous.
Ouais.
Et une cotisation de 80 euros qui correspond en fait à la licence, pour aller faire les courses, faire les tourniquets, comme on a dit, tous les week-ends.
Okay.
C'est fort sympathique.
Il y a beaucoup de concurrence dans les clubs alentours, en tout cas des clubs de votre taille, je veux dire, ou est-ce qu'il n'y en a pas tant que ça?
Alors, des clubs, il y en a pas mal dans le 64. Ouais. La moyenne des clubs en termes de licenciés est très faible, c'est souvent autour de 8-10 personnes.
D'accord.
Donc, le 64, après, c'est assez grand quand même, parce qu'il y a toute la côte. Mmh. Sur Pau, dans les environs de Pau, non, il y a 3-4 clubs, il n'y a pas de concurrence, du moins, c'est une concurrence très positive. Il n'y a pas d'antagonisme, on ne cherche pas à se piquer les licenciés. on est chacun dans nos vecteurs, dans nos créneaux, dans nos copains, et donc non, il y a une bonne ambiance entre les clubs et on a chacun, on va dire, nos licenciés respectifs, quoi.
Ouais. Donc tu le disais tout à l'heure, vous organisez un petit peu entre vous là sur WhatsApp des sorties qui peuvent être soit planifiées à l'avance, soit un petit peu au dernier moment comme ça avec les uns les autres. Ça, vous allez à la fois sur de la plaine, sur de la montagne, des sorties plus ou moins longues. C'est quoi
Ça dépend qui vient.
Ouais. Donc a priori, si c'est Benjamin, c'est plutôt court, c'est ça les sorties.
Voilà, c'est plutôt court et plat. Ouais. Donc on va jouer vers la plaine de Naï, parce qu'on a aussi beaucoup de licenciés qui sont du côté de Ouss. Mm-hmm. Donc on va aller rouler vers la plaine de Naï, vers Lourdes. Ouais. Donc c'est relativement plat. Et sinon, dès que les beaux jours arrivent, on va venir rouler dans les coteaux, soit au sud, mm-hmm. soit au nord. Puis après, quand il fait vraiment beau et que les gens sont en forme, on va aller faire l'école pyrénéen.
D'accord.
Et ça dépend des personnes, de la motivation mm-hmm. et.
On a tous les types de profils au niveau des licenciés, dont certains qui sont beaucoup plus attirés par la montagne et qui ne souhaitent faire que ça, enfin, qui s'éclatent dans les montées de col. Mmh. D'autres qui vont être plus intéressés par des parcours courts et plus techniques et un petit peu vallonnés, mais pour travailler la vélocité, le rythme et pour les courses du week-end. Mmh. Donc on essaie de concilier. Là, l'hiver, on fait plus du foncé sorti, on va dire de 90-100 km. Avec un dénivelé assez faible par rapport à ce qu'on pourra faire pendant le mois de mai ou juin avec les beaux jours qui reviennent.
Ouais.
Et là où on va faire des sorties un petit peu plus longues avec plus de col, quoi. Donc on essaie de varier les plaisirs, de que tout le monde s'y retrouve, mais de concilier les intérêts de chacun. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est compliqué, mais c'est ce qu'on essaie de faire pourtant.
Ouais, si j'ai bien compris, vous habitez pas tous à côté non plus. Quand vous organisez une sortie, est-ce que vous vous retrouvez forcément au même point de départ ou vous donnez rendez-vous à mi-route, par exemple?
Donc on essaye de faire un point de départ à Pau. Et ensuite, on a un point de départ à Ouss parce qu'on a beaucoup de licenciés qui sont du côté est de Pau.
D'accord.
Et donc, à chaque fois, on se retrouve à cet endroit-là précis. Et ça nous permet d'avoir un point de repère à tous et de constituer un gros peloton du club pour partir bien ensemble sur le parcours.
Ok. Donc, vous participez après à des courses à échelle... après, ça dépend des licenciés, si j'ai bien compris, selon leur appétence, leur envie de participer à ces courses-là, mais des courses à échelle locale, alors qu'on a perdu Olivier, je crois, à échelle locale...
Il a bloqué sur l'appétence, peut-être, je ne sais pas. Ouais.
Donc, au niveau de l'UFOLEP, il y a des courses qui sont organisées par département. Et donc on essaye déjà de faire toutes les courses du 64, après on va dans le 65, dans le 40. Et au niveau de ces courses, chaque week-end il y a ces petites courses, on va dire, de village. Après il y a des courses au niveau du département, donc auxquelles on va essayer de participer, au niveau de la région. Et après, pour ceux qui sont qualifiés au niveau national.
D'accord.
La saison des courses, elle va débuter là fin février. C'est quand même, on est en plein début, ça s'étale jusqu'au mois de septembre, avec des courses quasiment tous les week-ends. Il y a de quoi faire tous les week-ends, voire même de pouvoir courir deux fois le week-end, même dès qu'il y a des jours fériés. En général, il y a des courses qui sont faites. Et ensuite, au niveau des championnats, c'est ce que disait Cyprien. Donc, il y a de notre fédération, l'UFOLEP, il y a un championnat départemental, un championnat régional, un championnat national. Plus que Cyprien était là, nous a représenté dignement à tous ces championnats l'année dernière, grâce à son titre, champion départemental. Ils étaient quatre, mais pas les quatre moindres. Et donc, il est le premier à avoir amené un titre et un maillot de champion départemental au club.
Ah, super.
Donc, merci les jeunes, c'est le vieux qui dit ça, mais merci à lui encore. J'en profite pour lui redire.
Et comment s'est passé le championnat régional?
C'était en plein mois de juin, il faisait 35 degrés et on était dans les Landes. Donc on était 35 au départ, 19 à l'arrivée. Il faisait très chaud et j'ai pas trop mal couru, je termine dans le top 10 et c'était fort sympathique. Sauf que c'est des tours, on tourne à bloc, on réfléchit pas beaucoup. Ouais. Hein.
C'est des courses de quelle distance en fait?
Sur les championnats départementaux, c'est un peu plus long. Donc, c'est 80 km avec 1000 à 1500 mètres de dénivelé. Donc, c'est des parcours qui vont faire 5 à 8 km et on tourne pour atteindre ce kilométrage-là. C'est pas très futé dans la démarche, mais c'est assez fun dans la dynamique et l'intensité à mettre dans la course.
Okay. C'est quand même des épreuves qui nécessitent un entraînement non négligeable, puisqu'on est souvent à des coursiers qui sont à 2-3 sorties par semaine. Alors c'est pas forcément toujours 90 km, on essaie de faire des sorties longues, des sorties plus courtes ou plus rythmées, mais il y a quand même des courses qui sont autour de 38-40 de moyenne suivant les profils, donc c'est quand même des choses non négligeables. On est loin du milieu professionnel, mais le milieu amateur, même si c'est petit niveau, façon de parler au niveau fuel-up, on a quand même des moyennes non négligeables. Quoi.
D'accord. Est-ce que le club, on va parler dans quelques instants de la course que vous organisez le dimanche 8 mars prochain, en dehors de cette course ou de ces courses que vous pouvez organiser pendant la saison sportive, est-ce que vous organisez d'autres animations, événements on le dit tout à l'heure, pour faire rentrer un petit peu d'argent aussi dans les caisses du club. Est-ce que je sais pas, vous faites des vide-greniers, des bourriches, j'en sais rien, d'autres choses?
Non, jusqu'à présent, on fait pas forcément d'événements supplémentaires pour faire des rentrées spécifiques dans les caisses du club. Par contre, on essaye d'organiser des événements sympathiques. On allait faire du karting en début de saison, ouais. Et un repas à la suite. Cette semaine, on a un petit déjeuner ensemble pour préparer la saison.
Et on est invité, nous ?
Si vous voulez venir, samedi 22 février à 10h. Salut, Follet.
Non, mais les jeunes ne seront pas levés encore. Ils rentreront juste de discothèque.
Je confirme.
Et donc, le club offre les viennoiseries. C'est à ce moment-là où on se retrouve et on discute de ce qu'on souhaite faire dans le club.
Au niveau des activités, c'est surtout des activités que l'on propose entre les licenciés. Ouais. D'aller faire des épreuves, partir ensemble en famille. On essaie de faire un stage aussi qui se fait soit en France, soit à l'étranger pour regrouper le plus de monde, de fédérer le plus de licenciés. Ouais. Mais c'est des opérations qui n'ont pas pour but de faire rentrer d'argent. Ouais. À ce jour, les seules rentrées d'argent que l'on peut avoir, c'est via les cotisations. Mais on l'a dit tout à l'heure, c'est 1 euro, donc c'est pas énorme. C'est des sponsors ou des partenaires lorsqu'on en a, on félicite ceux que l'on a aujourd'hui et on les remercie encore. Et l'autre vecteur pour nous, pour financier, c'est la course. Plus ça peut être un moyen de gagner de l'argent, mais c'est à double tranchant. C'est-à-dire, il fait beau, on a du monde, on gagne des sous. Mmh. Il fait pas beau, on a personne, on perd des sous. Donc c'est vraiment un coup de poker.
D'accord. Parce que les inscriptions se font forcément au dernier moment, ça se fait pas à l'avance.
Voilà. Alors, on essaie de proposer des inscriptions, de les faire à l'avance, mais dans le milieu des courses, de ce milieu-là, c'est beaucoup d'inscriptions sur place le jour D. Comme ça se fait encore dans les courses à pied. Mmh. Mais ça se comprend. Les gens vont attendre la météo du dimanche. Et avant de se décider, je vais prendre mon vélo ou pas et aller courir s'il fait beau ou pas, quoi. Okay. Donc, ça se fait beaucoup, le jour J.
Donc le 9e Grand Prix cycliste d'ouverture Ufolet aura lieu à Usain le dimanche 8 mars 2020. Vous en êtes les heureux organisateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot de cet événement, tiens Cyprien, en quoi ça consiste?
C'est la première course Ufolet dans le 64. Et donc on va essayer de réunir un maximum de personnes pour venir tourner sur un nouveau circuit qu'on a défini cet hiver. Avant on était sur Pau, maintenant on va être sur Usain. Donc c'est un circuit d'à peu près 4 km qui est presque plat, sans relance trop difficile, qui va permettre de faire un beau parcours et une sympathique course si les gens viennent. Et donc ça sera à partir de 12h30 pour les inscriptions, 13h30 la première course. Donc on fait partir les 4e et 3e catégories, ça parle pour ceux qui font de l'UFOLEP.
Et pour ceux qui n'en font pas, justement, est-ce qu'on peut expliquer la différence
Alors là, c'est de vastes débats qu'on peut ouvrir. Donc la Fédération UFOLEP organise par groupe de niveau, première, deuxième, troisième et quatrième catégorie, les cyclistes. Donc les premières catégories sont les meilleures, les troisièmes sont les moins bons, et les quatrièmes, on va dire que c'est les grands sportifs. Même si ça tend à disparaître, c'est les plus âgés.
Ouais.
Même s'ils roulent aussi bien parfois que les troisièmes catégories.
Mmh. Ouais, c'est en fonction des résultats qu'il y a pu avoir dans les courses précédentes.
Et en fonction de nos résultats, on gagne des points.
D'accord.
Donc à chaque fois qu'on fait un top 5, on gagne des points. Et dès qu'on a le nombre de points suffisant, on passe en seconde catégorie, puis en première catégorie.
D'accord. Alors, ces catégories de niveau et celui de distance, plus le kilométrage de l'épreuve va varier selon la catégorie à laquelle on appartient.
Ouais. Marc, une question.
Du coup, sur votre course, par rapport aux catégories, les distances, quelles seront-elles?
Alors, déjà aussi, ce qu'il faut dire, c'est une course où on va accueillir les jeunes. Il y a très peu de courses qui les accueillent, donc c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, il y a deux catégories de jeunes, les 13-14 et les 15-16 ans, on va dire, qui font autour d'une vingtaine-trentaine de kilomètres. Après, pour les quatrièmes catégories, ce qu'on appelait avant les grands sportifs, qui sont, entre guillemets, les plus âgés, mais comme on l'a dit tout à l'heure, loin d'être les plus mauvais, ils vont faire autour d'une cinquantaine, un petit peu plus de kilomètres, et puis ça va en grandissant. Les troisièmes, c'est dans les 60, et puis 70-80 pour les premières et deuxièmes catégories.
D'accord.
Donc 80 km.
Ok. Et pour participer à cette course, il est nécessaire d'être licencié dans un club affilié UFOLEP?
Tout à fait, oui. Pour faire ces courses-là, donc il faut avoir une licence UFOLEP et la licence qu'on appelle cyclosport. Donc ce que disait tout à l'heure Cyprien, il y a deux types de licences en UFOLEP. La cyclotourisme, on va dire que l'assurance, c'est la licence de base. Et la licence cyclosport qui est celle au-dessus en termes de prix, mais c'est surtout celle qui permet de faire les courses. Et avec cette licence, on prend un carton qui nous affecte à une catégorie de niveau ou de valeur et qui va définir du peloton dans lequel on va pouvoir concourir pendant toute la saison, éventuellement monter de catégorie en catégorie. Donc oui, il faut être licencié et avoir ce carton pour pouvoir participer à notre course du 8 mars à Usain.
Vous attendez combien, ou vous espérez combien de participants sur une course comme celle-là?
Alors on a réservé le Zénith après pour la cérémonie réception, donc on espère pas mal de monde.
Ouais.
Non, c'est complètement variable. On va dire, lorsqu'on faisait la course à Pau, la pire année où on avait eu un temps très pourri, de la pluie, presque de la neige, On était sur une centaine de concurrents. La dernière édition que l'on avait faite à Pau il y a deux ans, 2018, on était à plus de 250. Donc c'est très variable. Donc non, on n'a aucune visibilité. On espère si l'on peut atteindre ce nombre-là, mais on n'a vraiment pas de visibilité.
Vous êtes obligé de prévoir pour le maximum aussi en termes d'organisation.
Voilà, c'est pour ça qu'on fait des départs séparés et pour que tous les pilotons puissent concourir en même temps sur ce même circuit. Quoi. Donc ça s'étale surtout de l'après-midi.
Ok. Qu'est-ce qu'il y a à gagner sur une course comme ça ?
Des bouteilles de...
Des fleurs.
Et des pâtés.
Ouais,
et des
pâtés. En effet, on a vraiment le fleur, la tradition cycliste qui est le bouquet de fleurs. On a la coupe pour les vainqueurs de chacune des catégories. Et en UFOLEP, donc, on se doit de récompenser les 5 premiers de chaque catégorie. Et le principe aussi, l'UFOLEP, c'est une valeur où c'est de promouvoir le sport. Mais l'UFOLEP, c'est pas uniquement une fédération dédiée au cyclisme, c'est une fédération multisport. Et le but, c'est de développer l'activité sportive et le plaisir, le défi personnel, mais pas du tout l'obtention de résultats si on les attend mieux. Mais on n'a rien à gagner. Du coup, nous, il n'y a pas du tout d'argent en jeu. Et le but des prix, ce sont que des prix en nature. Et la valeur des prix, on essaie de faire en sorte que la valeur des prix gagnés corresponde au prix de l'engagement qui a été donné.
D'accord.
L'engagement, il est de 7 euros par concurrent. Ouais. Donc voilà, c'est des petits lots, c'est plus symbolique. On souvent dit, mais voilà, j'ai gagné une bouteille de vin ou un filet garni. C'est vraiment le plaisir de se faire tirer la bourre entre nous. Voilà, mais qu'on ait gagné ou pas la bouteille de vin, c'est ça qui est important, quoi.
D'accord. Autre question, comment ça se passe du point de vue des organisateurs? Combien de temps à l'avance on s'y prend pour organiser une course comme ça, Cyprien?
Depuis à peu près septembre déjà pour trouver un parcours. Ensuite, démarcher les mairies pour qu'elles acceptent.
Faut valider les tracés, c'est ça, après derrière.
Ouais, c'est ça, pour que la mairie accepte qu'il y ait des gens qui viennent à ce moment-là, puisqu'il faut des arrêtés municipaux, voire préfectoraux, si on passionne départemental. Et donc c'est à partir de septembre qu'on commence à réfléchir. Une fois qu'une mairie a accepté, que le parcours est accepté, c'est la chasse aux partenaires pour essayer d'avoir ces petits lots-là qui nous permet de récompenser chacun. Et ensuite, c'est une organisation logistique. Donc ça, c'est surtout le président qui gère, qui passe beaucoup de temps à organiser cela. Et après, il y aura toute la partie le jour aussi de la course pour préparer, mettre en place les barrières, faire la sécurité... organiser l'accueil des coureurs et puis après tout nettoyer.
J'imagine que les licenciés du club participent à la course parce qu'ils doivent organiser ce jour-là. Enfin, comment ça se passe en fait?
Alors là, c'est un dilemme de Colonna justement, puisqu'on a tout intérêt à ce que nos licenciés représentent le club pendant l'épreuve.
Et
mais qu'on n'est pas très nombreux, on a aussi besoin de nos licenciés
aider,
pour filer un coup de main. Donc ce que l'on essaie de mettre en place, on dit à nos licenciés qui sont compétiteurs d'être sur le vélo, mais qui sait trouver un bénévole qui vient nous filer un coup de main le jour de l'épreuve. Donc on essaie de trouver quelqu'un, puisqu'en effet, d'un peu de vue organisationnel, pour répondre à la question de tout à l'heure, donc il y a au moins trois mois de boulot à l'avance, avec un dossier que l'on doit déposer, qui va passer soit à la préfecture ou à la mairie, qui doit être déposé au moins 2 mois avant l'épreuve. Et puis après, c'est toute la partie démarche de partenaires pour trouver des lots, des dotations, trouver des bénévoles. Donc ça se fait en interne, on essaie par tous les moyens d'essayer de trouver des bénévoles, et puis surtout notre but aussi c'est de limiter les frais au maximum. Donc voilà, pour tous les lots, pour tous les bénévoles, on essaie de faire par le bouche à oreille, le copinage, et pour faire que l'organisation soit réussie et surtout garantir la sécurité le jour de l'épreuve. Donc là, ce sera un des critères si on n'a pas cette personne le jour J, mais nos licenciés, ils ne seront pas sur le vélo, ils seront là à assurer la sécurité aux différents carrefours de l'épreuve. Voilà, c'est les critères que l'on a, et c'est un coup de poker qu'on donne chaque année et qui est très compliqué à mettre en place.
Qu'est-ce qu'il reste à faire là dans les 15-20 derniers jours? On s'active à fond de votre côté, Cyprien?
La première problématique, d'un point de vue légal, c'est qu'il faut au minimum 12 personnes qui vont sécuriser les carrefours pour laisser tourner les vélos, parce qu'on ferme la route. Et donc ça, on a besoin des 12 personnes, donc on essaye de les chercher, de les trouver. Donc en général, c'est en interne avec le club, mais si on veut qu'ils concourent, il nous faut des bénévoles. Et après, ça va être le point de vue surtout logistique. Organiser, mettre la barrière, apporter, par exemple, il nous faut de l'électricité au niveau de la ligne d'arrivée pour installer tout ça. Et puis après, trouver les lots, organiser les lots et gérer les inscriptions, parce qu'on peut aussi s'inscrire en ligne. Donc c'est le travail principal qui reste à accomplir. Puis faire de la pub, l'objectif c'est qu'il y ait un maximum de coureurs qui viennent sur notre épreuve et qui viennent participer, se faire plaisir sur le vélo.
Ouais, là, on est en pleine phase de communication. On doit commencer à communiquer sur l'épreuve auprès des médias locaux. On est dans la phase de finalisation de recherche des partenaires, d'essayer de trouver des lots pour après composer les différents prix et primes qui seront disputés pendant l'épreuve. Et puis ensuite, là, oui, c'est le dernier rush, ce sera le jour J, l'avant-veille, vraiment la logistique, la mise en place du circuit, le positionnement des signaleurs, parce qu'on a besoin de secouristes. Et ouais, on a essayé une douzaine de personnes pour le carrefour, mais aussi, il y a d'autres personnes qu'il faut pour être sur la ligne d'arrivée, pour faire les commissaires de course. On a besoin aussi de personnes aux inscriptions pour pouvoir faire les inscriptions, on a aussi besoin de personnes pour conduire les voitures ouvreuses, pour sécuriser le circuit. On a des voitures qui viennent ouvrir le peloton et faire en sorte que s'assurer que le circuit est bien clean avant que le peloton des cyclistes passe. Donc oui, c'est plus de 12 personnes qu'il faut trouver, donc c'est une énorme logistique, enfin, pour nous à notre niveau, c'est une grosse logistique humaine et à mettre en place, et c'est quand même des enjeux assez risqués à notre niveau, mais c'est aussi le plaisir après de voir des personnes qui viennent de partout, de tout le sud-ouest, et qui viennent découvrir une ville, une commune, une région, et puis qui après essaient de nous manifester leur satisfaction en revenant les années aux éditions suivantes.
On rappelle la date et l'heure de cet événement.
Alors, ça sera le dimanche 8 mars à Uzin, premier départ à 13h30, donc pour le départ des 3e et 4e catégories, et à 15h30, le départ des 1e et 2e catégories.
Et remise des bouquets à 17h30.
Parfait. Comment est-ce qu'on peut suivre l'actualité du club, retrouver toutes ces infos? Bien sûr, on pourra réécouter le podcast de cette émission, mais peut les retrouver aussi sur Internet, j'imagine, sur les réseaux sociaux.
Ouvrir Google pour les anciens, taper dedans GCP Pau et vous allez tomber sur un site qui est le blog du club où toutes les infos sont mises.
D'accord.
Vous aurez aussi un Facebook, un Instagram, et pour les sportifs, je ne sais pas si vous connaissez ici, Strava, qui permet de suivre le club et toutes les activités. Vous pourrez voir nos parcours et ceux qui sont bons, ceux qui sont moins bons, ceux qui roulent beaucoup et ceux qui roulent moins.
Et dernière chose aussi, on a même fait un site, grâce à Cyprien, un site dédié pour l'épreuve qui permet d'avoir toutes les infos, le parcours, les heures de départ, le lieu pour les dossards, toutes les infos sur un site dédié. Et toutes les infos, vous le trouverez en faisant un GCP64 sur Google, vous trouverez toutes les infos.
Super, merci à vous. Quelque chose à ajouter peut-être? On a fait le tour?
Je pense, sinon on le rajoutera tout à l'heure et puis
merci à vous de nous avoir invités, de nous avoir laissé autant de temps pour parler du club et de la course.
Et donc, c'est toujours un plaisir de venir à cette radio, même si je vois il y a des petits taquins qui sont arrivés entre temps, mais ça. On va pouvoir régler nos comptes tout à l'heure.
Exactement, les petits taquins alors la personne d'Olivier Garcia que vous retrouvez dans
quelques
instants.
Ça lui va très bien, le petit taquin,
chronique.
Je trouve.
Merci à tous les deux, Benjamin, Cyprien, qui représente le guidon cyclosportif pyrénéen. On va se retrouver dans quelques instants, juste après un écran publicitaire. On parlera notamment du Stadeau TPR avec Albert Méron, le capitaine de cette équipe, et suite au match de ce week-end un petit peu houleux, un petit peu costaud, on va dire, on y reviendra tout à l'heure. Et bien sûr, toutes les chroniques de nos animateurs. À tout de suite sur Radio Inside.
Écoute le Cop Inside et gagne tes places pour les événements sportifs de la région.
Vous écoutez le Cop Inside en direct sur Radio Inside, bien sûr, jusqu'à 20h30 sur le 99.8 à Pau et dans le Béarn, et sur le 88.7 à Tarbes et en Bigorre.
Un événement, un fait marquant. Le Labo du Cop décortique l'actualité sportive dans les Pyrénées.
Le Labo du Cop consacré ce soir au Stadeau TPR, et on retrouve tout de suite le capitaine Albin Méron. Bonsoir Albin.
Bonsoir à tous.
Et merci d'être avec nous ce soir dans le Cop Inside. Albin qui était présent dans les studios ici même il y a quelques semaines. Albin, on va revenir sur le match de ce week-end entre le Stadeau et Lannemezan. Un derby assez houleux, remporté sur le terrain par le Stadeau 36-3. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce match, de cette belle victoire du Stadeau? On va parler de la partie sportive, on parlera de la partie extra-sportive juste après si tu veux bien.
Ouais, au niveau de la rencontre, une rencontre houleuse comme tu l'as dit. Après concernant le pur aspect sportif, la performance, on a vu qu'on a réussi à marquer 6 essais à 0, donc un score à 36-3, donc je suis très satisfait du score et je suis très satisfait de l'ensemble de l'équipe.
Ouais, une troisième victoire consécutive en championnat pour le Stadeau, hein.
Oui, voilà. On a réussi encore une fois à gagner avec le bonus, donc c'est très bien dans la course à la qualification, c'est très bien, même si on sait que ça va être compliqué de rattraper les Blagnac. On va essayer d'aller chercher le maximum de points partout où on pourra, et on fera les comptes à la fin de la phase régulière.
Donc ça, c'est pour la partie sportive. Malheureusement, ce match a rapidement dégénéré sur le terrain, en tout 11 cartons, 8 cartons rouges. Qu'est-ce qui s'est passé, Albin?
On s'était un petit peu préparé à ce genre de rencontre. On savait qu'en recevant Lannemezan, on savait un petit peu à quoi s'attendre, on savait ce qu'ils allaient nous proposer. Voilà, nous les Tarbés, on est très très triste d'avoir proposé un tel spectacle, mais voilà, malheureusement, je crois qu'on n'était pas les seuls décisionnaires de ce qui s'est passé sur le terrain, et voilà, donc je trouve ça triste pour le rugby français et de voir en troisième division du championnat de France, c'est vraiment vraiment pas une belle image qu'on a montré de notre sport, mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, on maîtrise pas toujours tout, et sur un terrain il y a deux équipes, et voilà, on n'a pas pu gérer tous les acteurs du match, si je puis dire.
Ouais, les torts sont partagés, donc si je comprends bien.
Voilà, exactement.
Ouais, d'accord.
Exactement.
Le match aller avait été un petit peu chaud ou pas spécialement?
Oui, le match aller, la maison nous avait reçu en étant beaucoup dans la provocation, etc. Et nous, avec cette nouvelle équipe qu'on avait eue et beaucoup de jeunes joueurs, on avait plutôt subi ces provocations, on avait laissé passer pas mal de choses et on n'avait pas réussi à gagner, et ça s'était mal passé là-bas. Et du coup, sur ce match, on s'était dit que nous, on voulait se focaliser uniquement sur la performance et le rugby, donc je pense que le score parle de lui-même. Et ensuite, par contre, on s'était dit, si jamais Lannemezan est amené à réitérer les provocations, et ben, faudra simplement faire face et attendre que ça passe. Donc c'est ce qu'on a fait, et je crois que c'était la meilleure attitude à avoir, et ça nous a souri au niveau du score.
Quel type de suspension est-ce que vous encourez du côté du stadeau? Il y a une commission de discipline derrière peut-être qui va passer. Comment ça va se passer là dans les prochains jours?
De notre côté, on a pris deux cartons rouges, donc du coup, dès qu'on prend un carton rouge, il faut passer en commission et en visioconférence avec Marc aussi, il me semble. Donc voilà, on est dans l'attente de savoir quand est-ce que va être calée la commission et savoir combien de matchs de suspension les joueurs vont prendre, mais voilà, on mettra en avant le contexte du match, et que je pense qu'avec les images à l'appui, on peut se faire une idée assez rapidement de ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Mmh.
Ça sera forcément pénalisant pour les prochaines rencontres du stade.
Bien sûr que c'est pénalisant, que ce soit carton jaune ou carton rouge. Mmh. Carton jaune, ça donne du sursis, du rouge, ça nous enlève tout de suite minimum une rencontre, donc bien sûr que ça nous pénalise, et on est les premiers déçus de ça, mais voilà, comme je le disais, on ne maîtrise pas toujours tout, donc voilà, on va faire avec, et on va attendre que ça passe, quoi, voilà.
Albin Méron, on le disait tout à l'heure, hein, série en cours de 3 victoires pour le stade TPR, qui est 3e à 5 longueurs de Blagnac, c'est encore jouable de viser cette 2e place?
Comptablement, c'est encore jouable, maintenant, on reste réaliste, et on sait que on leur a laissé une distance de points qui va être compliquée à aller chercher. Il faudrait encore que Blagnac aille échouer quelque part. Donc voilà, on connaît cette équipe de Blagnac qui est de grande qualité. Donc ça va être très compliqué, on reste réaliste. Mais voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on va essayer de chercher le maximum de points. Et puis on fera les comptes à la fin. Si on arrive à faire basculer la tendance, tant mieux. Si on n'y arrive pas, eh ben, tant pis, on basculera sur les phases finales de 10 du manoir. Mais ce qui est sûr, c'est que la motivation est bien présente dans notre équipe pour aller chercher le maximum de points.
La réception de Moléon se profile pour le week-end prochain. Comment ça se passe là, cette semaine de préparation, ce début de semaine? Quel est le programme là qui vous attend sur ces prochains jours?
Ouais, on accueille la belle équipe de Moléon samedi, qui va nous proposer certainement beaucoup de jeux, parce que c'est une équipe où on a pu voir l'aller, c'est pas les plus costauds physiquement, mais par contre ça s'est très bien joué au rugby. Donc voilà, je pense que pour ce match-là, on va se concentrer sur nous, comme on le fait quasiment chaque week-end. Et voilà, mais on s'attend à recevoir une belle équipe très joueuse. Et voilà, on va essayer de contenir leurs assauts et de nous essayer de scorer au maximum pour remporter ce match.
Merci beaucoup Albin d'avoir été avec nous ce soir dans le Cop Inside, et bonne continuation à toi et au Stade TPR.
Ok, merci pour l'invitation, bonne soirée à vous.
Merci Albin Méron, donc capitaine du Stade TPR, vainqueur sur le terrain, 36-3 face à Lannemezan. On l'a dit, match un petit peu houleux, hein, forcément, avec la faute un petit peu aux deux parties, hein. La bagarre, c'est pas, ils se battent pas entre eux, les joueurs, heureusement. Mathilde, des réactions sur les réseaux sociaux, hein, après ce match-là?
Oui, tout à fait. Alors, bon, on va pas faire
Ouais, on va passer toutes les insultes
les commentaires.
Sort, là,
alors,
ouais.
Alors en fait, le truc qu'il y a, c'est que la guerre entre les clubs a continué après le match sur les réseaux sociaux, à savoir de qui venait la faute, de comment on allait voir qui avait commencé, etc. Alors tout le monde attendait la diffusion du match ce soir sur l'équipe 21. La chaîne a décidé de ne pas diffuser le match, donc ça permettra pas aux supporters qui a lancé les hostilités.
Ils peuvent mettre du vélo à la place.
C'est ça, on peut leur proposer ça. Alors heureusement, dans tous ces commentaires, il y a les supporters des deux équipes qui se sont rejoints sur un même avis. Cet avis, c'est comme celui de Pascal qui dit qu'un spectacle lamentable pour notre rugby en Bigorre. Que vont dire nos jeunes? Et après, nous pleurons tous et toutes que nos équipes d'antan perdent de leur splendeur. Arrêtons ces querelles de clochers, ce temps-là est révolu. Grandissez. Quelle tristesse, Guy qui nous dit, quelle tristesse de voir le rugby bigourdan est tombé et vous voulez remplir les stades. Enfin voilà, toutes les réactions, c'était surtout voilà, pour les, on va dire, les supporters qui aiment le sport, qui aiment le rugby, étaient un peu tristes de voir ce match et ce spectacle-là. Surtout pour les jeunes, ça montre pas forcément une bonne image.
Ouais, triste spectacle donc à Tarbes. D'autres réactions, Mathilde? On reste dans le domaine du rugby.
Alors, on reste du côté du rugby, mais cette fois, du côté pas loin. Alors, bon, cette fois, la victoire n'était
pas, bagarre,
hein. Pas au rendez-vous, pas de bagarre. Mais la section qui a encore perdu un match dans les dernières minutes face à l'ASM. Et c'est devenu un peu, on va dire, une coutume pour les Ballois qui avaient perdu déjà face à Brive à la fin du match. Et alors, bon, forcément, les commentaires, ils vont bon train. Christophe qui dit « Les matchs durent trop longtemps pour Pau, j'ai l'impression. » Rich qui dit « À chaque journée, les fins de journée des matchs de Pau sont un régal. » Alors, des supporters se vendant un petit peu agacés, qui trouvent dommage qu'on trouve toujours des excuses aux défaites. Alors, un coup, c'est l'entraîneur, un coup, c'est le staff, un coup, c'est tel joueur, un coup, c'est la pelouse, un coup, c'est le temps. Mais qui font passer quand même le message avec humour, comme Niki qui dit « C'était la faute de l'entraîneur Simon Manix, bravo la section. » Et puis parmi les râleurs, il y a quand même les éternels optimistes qui ont toujours de l'espoir pour la fin de la saison de la section paloise, comme Michel qui dit « Moi je vous ai aimé ce soir, au bout du courage, le public est derrière vous et ensemble on va s'en sortir. » Frédéric qui dit « Bien dommage mais ça va passer un jour. » Et Nicolas, « Vraiment désolé section, c'est passé tout près, tenez bon. » Alors on leur souhaite vraiment ça, hein, le meilleur. Et puis au pire, comme le dit François, l'abonnement pour la Pro D2 sera toujours moins cher.
petit trait d'humour pour terminer. Benjamin, amateur de rugby, notre invité Benjamin Lacaze du guidon cyclosportif pyrénéen. Une réaction?
Ouais, j'avais plusieurs réactions déjà sur ce qui s'est passé à Tarbes. Juste pour le préciser peut-être aux plus jeunes interlocuteurs et auditeurs de l'émission, cette querelle entre Tarbes et Lannemezan, elle est là depuis plusieurs années, puisque Tarbes a été le haut lieu du, enfin le club fanion de la Bigorre pendant des années, qui était dans le top 14, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, qui a subi plusieurs descentes pour des raisons financières et sportives, et qui pendant un certain temps s'est un petit peu servi du club de Lannemezan pour pouvoir remonter et regagner sa place. Donc du coup, il y a des hostilités qui sont nées de ce mode opératoire qui a été utilisé à cette époque-là. Donc ça, c'est pour la partie de Tarbes, et c'est bien dommage. En effet, le club a du mal d'un point de vue financier, sportif, pour remonter. On a plusieurs clubs de Fédéral 1 dans le 65 et ça va être très compliqué. Une fusion est inenvisageable entre les différents clubs de Fédéral 1 du département. Donc ça va être très compliqué pour le Stadeau de pouvoir remonter. Et pour la section paloise, voilà, bon, je suis tarbé d'origine, je regarde quand même la section. Je suis pas forcément le premier supporter, mais c'est vrai que ça fait mal au bide de voir des matchs perdus alors que ils ont le ballon. On est dans les 5 dernières minutes, ils ont le ballon, ils sont dans le 22 de Clermont. Et sur deux contre, ils se font avoir. Pour les joueurs, c'est dommage parce que je pense qu'il y a quand même du potentiel. Et c'est vrai qu'il manque peut-être de la confiance. Alors, je sais pas si c'est en changeant le coach, le manager, ou en faisant revenir Simon que ça changera. Ouais. Mais c'est dommage pour les joueurs dans un premier temps, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui se donnent et qui se dévouent au club, et avec quand même quelques figures emblématiques et qui sont originaires du Béarn et qui ont donné qui ont fait toute leur carrière à la section.
Ouais, c'est forcément désolant. Merci Benjamin en tout cas pour ton témoignage. On a fait le tour, Mathilde, sur les réseaux sociaux?
Oui, on a fait le tour.
Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à réagir jusqu'à la fin de cette émission sur les réseaux sociaux. On a la page Facebook, Le Cop Inside, Instagram, Le Cop Inside. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour réagir aux différents sujets, ou si vous avez encore des questions pour nos invités du guidon cyclo-sportif pyrénéen, vous pouvez le faire.
Le chiffre du Cop.
Le chiffre du Cop, et on retrouve ce soir à la baguette Marc Logini.
Oui, donc ce soir le chiffre c'est 4 tout simplement.
4.
Combien de cheveux il te reste?
Ouais. Eh non, c'est 3.
C'est 3, c'est 3. Ouais, c'est ça.
Combien faut-il être pour jouer à la belote?
C'est, ça marche aussi, mais
oui,
c'est pas
c'est,
ça.
C'est vrai, ça aurait pu
alors
être.
Alors, c'est
ça,
par rapport à l'actualité, quand même, de ce week-end.
On est il y a eu un tournoi de belote ce week-end.
Ouais, c'est ça, ils étaient que 4.
On est sur un sport court?
Plutôt, ouais.
Combien il y avait de concurrents pour Cyprien quand
oui.
ils ont
exactement.
Ouais, ouais, pas mal, pas mal.
Ils étaient 4 aussi.
4.
C'est un sport court.
Ouais, basket.
C'est un sport court.
Rugby, on en a beaucoup parlé.
Foot.
Foot, poissé donc certainement.
4 ouais, victoires d'affilée, non, c'est plus
non,
que ça.
Non, 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 c'est pas ça.
Non,
combien de buts ils ont encaissé depuis le début de l'année?
Non.
Non. C'est par rapport à des buts?
Oui.
C'est par rapport au poissé.
Marqué sur coup franc?
Bien.
Ouais,
et combien de buts ils ont marqué sur coup franc?
Par Lamine Gueye cette saison.
C'est ça, c'est exactement. Ça ouais. C'était son 4e coup franc direct, un magnifique coup franc en pleine lucarne, avec centré sur le côté, superbe. Ouais. Et donc pour dire également, donc il a mis 4 buts sur coup franc, mais en tout il a mis 12 buts, 8 passes décisives. Et donc il est
pas trop mal, hein.
Ouais, c'est super, ouais. Surtout que le POFC a mis 40 buts cette saison et il est à l'origine de la moitié des buts du POFC. Ouais. Donc voilà, c'est pour donner un petit coup de chapeau à Lamine Gueye qui fait une super saison. Et je pense que si le POFC monte, ça va être compliqué de le, enfin ça serait bien de le garder.
S'il monte pas, en tout cas, ça va être
voilà, s'il ne monte pas, ça va être impossible. S'il monte, il y aura peut-être des chances de le garder parce qu'il est un peu décisif. Et en plus, il s'est bien remis. Bah, c'est vrai que sa prestation avait été en demi-teinte contre le Paris Saint-Germain. On se souvient qu'il avait essayé de briller et qu'il avait été un peu puni le match après par le coach. Et là, il retrouve des super sensations. Et il est décisif puisqu'il a fait même une passe décisive sur le corner, donc sur la tête de Baptiste. Donc voilà, un grand coup de chapeau à lui et un grand coup de chapeau au POFC qui enchaîne les victoires et qui est maintenant en tête tout seul du championnat national avec un point d'avance sur Dunkerque, mais surtout 4 points sur le troisième. Donc tout va bien pour lui,
ouais,
ça dure.
C'est super. Benjamin, une petite réaction.
Si le POFC monte, c'est tout le mal que je leur souhaite. Mais où vont-ils jouer, quoi? On a un champ de patates au niveau du hameau.
À Trélu, il y aura plus de matchs de rugby. Donc,
ouais, mais je sais pas si ce sera homologué. Il va falloir rajouter des grilles aussi. Il va y avoir un problème logistique. Ouais. Mais question sérieuse au niveau des infrastructures baloises. On a beaucoup d'efforts qui sont faits pour les clubs au niveau. Il y a quand même de gros soucis au hameau. Mais quid pour ce club du POFC s'il monte?
On aura le temps d'y réfléchir.
Ouais. Cyprien, toi qui es amateur de foot, POFC, tu suis un petit peu ou très loin?
Il n'est pas amateur de foot, il est amateur de l'OM. Est-ce que c'est vraiment du foot?
Après, ça dépend du débat. Ouais.
Bonne entrée en matière pour le débat.
Ouais.
Ah, c'est très difficile de regarder autre chose que l'OM quand on aime le beau jeu et la vraie ferveur populaire.
Bon, on va passer à la chronique suivante. Bon.
Je suis allé dans le top des ultras parce qu'il y a des ultras à Pau où ils sont une trentaine et c'est fort sympathique. Je suis allé les voir une fois. Il y a plus d'ambiance que quand on va au hameau voir les matchs de rugby, je trouve.
Mais à part le foot. À part ça, tu es originaire d'où?
De Marseille.
Voilà. Merci Marc pour ce chiffre du COP qui a permis de mettre en lumière la belle saison réalisée par l'attaquant palois Lamine Gueye.
Un coup de cœur. Wow. Un coup de gueule. Ooh. C'est le kiff et la gifle du COP Inside.
Mesdames et messieurs, préparez-vous à la meilleure chronique, la chronique la mieux préparée de cette émission. C'est Olivier Garcia qui est à l'origine de cette chronique. Le kiff et la gifle. Donc.
Et sans transition avec football, évidemment, parce qu'on va continuer sur la lancée de Marc. On va parler un peu du football dans le 64 du coup, mais un peu à plus bas niveau. Parce que c'est vrai qu'il y a le POFC qui est en National 1, en National 3, je crois l'équipe B est en National 3. Et il y a aussi des clubs en région, on n'en parle pas trop souvent dans le COP Inside, on essaie de faire des petits clins d'œil. Donc là on va juste faire un petit point, et pour saluer juste une équipe après, ça va être un peu long mais c'est pas grave. Donc en Régional 1, il y a Orthez qui est 9e et qui a perdu 1-0 contre Bloc-Fort, donc bravo à eux, mais c'est pas eux qu'on va faire le kiff. Le FAMEB qui est 7e et qui a perdu 2-0 contre Anglette, même débat. Poitiers de Lescar, lol. Et Artix qui est 12e et qui a fait match nul 1 partout contre Saint-Médard. Enfin, Poitiers de Lescar, est-ce qu'on peut rappeler le score? Tu peux le dire, Xavier?
Ils ont pris au moins 4 buts. Je sais qu'ils ont perdu 4-0 à domicile.
5-0 contre Igos, ouais, ils ont pris à Igos. Ouais,
il y avait 0-0 à la mi-temps en plus.
Voilà. Et ils sont relégables maintenant.
Ouais, c'est compliqué.
Ça sent pas bon.
C'est difficile. Ouais.
Et un dernier club en régional. Marco, est-ce que tu te souviens du dernier club où Mathilde? Ou jamais aussi, si. Le dernier club qui est en région et que j'ai pas cité, du 64.
C'est une entente, une entente
autour de Pau, oui.
Ouais. Comme une autour de Pau.
C'est une entente avec plusieurs clubs.
Pas du tout.
L'Escar?
Oui, l'Escar. Ouais. L'Escar qui, eux,
qui est dans la même poule que
Pau de l'Escar, qui, eux, sont premiers après leur match nul contre Audange, un partout. Et qui sont premiers, surtout avec 8 victoires, 5 nuls et 0 défaite. Ils sont très très bien partis pour remonter. Et ils ont 29 points. Et le deuxième est à 22 points, c'est Talence. Et donc, du coup, voilà, c'est pour les mettre en lumière, on va dire.
Ouais.
Rappelle-nous d'où tu es.
Moi, je suis de l'Escarpe.
Ouais, ouais, voilà, c'est ça.
T'es d'où c'est rien.
Et comment on fait pour mettre en lumière à la radio?
Je sais pas, mais c'est, voilà, mais c'est un peu d'esprit, c'est ouais, un peu de choses comme ça. Donc voilà, vraiment bravo à eux. Ils font une superbe saison. Ils ont un bon potentiel pour monter. Donc voilà, c'était. On en parle pas trop souvent. On parle souvent de Poix parce que c'est nos potes. Ils viennent souvent ici. Mais bravo à l'Escar aussi pour cette fabuleuse saison. Voilà.
C'était merci le Olivier pour ce kiff. Et la gifle donc.
Alors la gifle, c'est un truc qui me touche aussi un peu, mais c'est un problème aussi qu'il faut poser. C'est vrai que
posons-le
sur la table.
Oui, mais sur la table à la radio, ça va pas se voir.
Ouais, c'est ça.
On va parler un peu de tennis de table. Donc, il faut savoir que je suis un grand pratiquant de tennis de table.
Oui.
Et ce week-end avait lieu un tournoi jeune, en gros, à Pau. Et une catégorie des jeunes a été obligée d'être localisée sur l'Escar parce qu'il y avait des problèmes de place. Et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a vraiment des salles dédiées au tennis de table sur Pau? Donc il y en a une à l'Escar, il y en a une et c'est tout en fait. Et du coup, je me dis, mais on est quand même dans un département et à côté d'une ville, Pau, et c'est le même problème pour Tarbes d'ailleurs, où il y a quand même beaucoup d'infrastructures et il n'y a absolument aucune infrastructure dédiée exclusivement qu'à la pratique du tennis de table, alors que pour le tennis par exemple c'est beaucoup plus évolué. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi il n'y a pas de salle de tennis de table digne de ce nom sur Pau, sur Tarbes, etc.? Je ne sais pas si vous avez la réponse.
Est-ce qu'il y a un problème de licenciés, de nombre de licenciés?
C'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de licenciés, mais il y en a quand même. À Pau, ils sont entre une centaine, et il y a pas mal de clubs. Il y a dans le département de 64, il y a 600-700 licenciés, quoi. Donc c'est pas non plus n'importe quoi. Et c'est dommage qu'il y ait ce problème d'infrastructure qui justement ne permet pas au club de se développer et devoir partager des
je pense créneaux. Que tu trouves ça dans d'autres sports, le badminton par exemple. Je pense qu'il n'y a pas de salle dédiée.
Oui,
le hand, il y a pas que le tennis.
On est d'accord.
De table.
Ouais, après, même une salle dédiée au badminton et au tennis de table, pas partagée, mais qui est une grande structure au sport de balle,
ouais,
comme
après,
ça.
Après, il y a un investissement, c'est pas forcément les sports les plus mis en avant. Donc.
Oui, mais je trouve ça dommage qu'on sacrifie ce genre de sport par rapport à d'autres, alors que c'est un sport, justement, par exemple, le tennis de table, c'est un sport qu'on peut faire jusqu'à. C'est des personnes, les seniors qui peuvent en faire. Le plus vieux licencié de tennis de table a 101 ans quand même, il est toujours vivant d'ailleurs. Et,
bravo à lui.
Il fait toujours. Jean-Paul Boudeville, il s'appelle.
Mmh. Et Longue vie à lui. Hein.
Et donc voilà, je trouve ça dommage que justement ce genre de sport soit pas forcément mis en valeur et qu'on ne fasse pas des infrastructures dignes de ce nom pour aussi les entre guillemets petits sports.
Réaction de Benjamin, vous l'attendez tous.
Ah ouais, je te suis tout à fait dans ces propos. Ah. Ce qui va au tennis de table, malheureusement, se répète avec tous les sports amateurs et surtout voilà tous les sports non professionnels. On est en plein constat de ce qui se passe entre le monde pro et le monde amateur, où Pau se vante d'être la ville européenne du sport depuis 2019, si je me trompe pas. Mais en effet, il y a beaucoup de choses et d'infrastructures qui sont là pour les clubs pro, que ce soit le palais des sports pour l'Élan, le stade Flamand Neuf pour le Pau FC, le stade du Hameau qui est superbe pour la section. Mais derrière, enfin, pour faire des pros, il faut des clubs amateurs et des gens qui se dévouent et qui vont rechercher et qui vont alimenter plus tard ces clubs pro. Mais malheureusement, et c'est très flagrant, c'est flagrant en Berne et surtout à Pau. On a beaucoup de clubs qui souffrent. Moi, je vois via un autre univers, celui du basket que je suis par ailleurs, où des clubs palois ont des infrastructures qui sont indignes de ce nom, dans lesquelles elles doivent pratiquer, et surtout sont des complexes qui doivent être partagés avec plusieurs sports. Donc ça peut être avec du roller, avec du badminton, avec du tennis de table, mais il y a vraiment un gros problème d'infrastructure, et les infrastructures qui restent sont mal entretenues, ne sont pas entretenues, et c'est un gros débat. Je pense que ça va peut-être un bon sujet à proposer aux candidats des municipales et à Pau, mais malheureusement ce sont les petits clubs qui en souffrent au quotidien, et les licenciés au quotidien, qui pourtant après feront vivre les clubs du coin et alimenteront la vie sportive et du département et des différentes villes.
Ouais, je partage totalement, Olivier, c'est ton cas aussi, voilà. J'imagine. Ouais, merci c'est pour le kiff et la gifle,
Olivier. Avec plaisir.
Allez, on va se retrouver dans quelques instants, juste après une courte page de pub pour la dernière ligne droite de cette émission. À tout de suite sur Radio.
Écoute le Cop Inside et gagne tes places pour les événements sportifs de la région.
20h16 sur Radio Inside. Vous écoutez le COP Inside en direct jusqu'à 20h30 avec toute l'équipe des sports. Mathilde Faux, Marc Logini, Olivier Garcia et nos deux invités qui représentent le guidon cyclo-sportif pyrénéen. Mathilde, je me tourne vers toi. Petite réaction, petite info, résultat sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook.
Oui, tout à fait. C'est Run in Pyrénées qui nous a envoyé des résultats de course. Alors, il s'agit d'abord du cross, de la demi-finale du cross du côté de Carcassonne. Léa Kerbiriou.
Marc, est-ce que tu peux l'aider?
Pardon, Kerbiriou. Première en junior et Didier Zago, deuxième en master.
Ça allait, ça.
Et ensuite, les inscriptions pour le GTVO qui sont parties, c'est vrai, en une journée. Ça sera le 11 juillet à Larens. Et ils sont partis même en moins d'une journée, je crois que c'est même en moins d'une demi-journée. Ça a été... fulgurant, donc voilà. Donc
GTVO, grand trail de la vallée d'Ossau, on précise.
Tout à fait, qui aura lieu à Larens le 11 juillet.
Et on remercie donc Run in Pyrénées, représenté par Mathieu Berthos, qui nous envoie régulièrement des informations sur la course à pied dans les Hautes-Pyrénées, notamment les différentes courses qui peuvent y avoir. Allez, on enchaîne tout de suite avec notre ami Marc, que l'on retrouve pour le quiz du COP.
Le quiz du COP. Un événement, un fait marquant. Le Labo du COP décortique l'actualité sportive dans les Pyrénées.
Voilà, donc ce sera juste le quiz du COP.
Le
deuxième tunnel qui s'est lancé tout seul, tout va bien. C'est donc bon. Ce sera le quiz du COP, le Labo.
Les joies du direct.
C'est ça.
Donc un petit focus sur le BHB qui a donc gagné ce week-end contre Strasbourg, donc sur le score de 30 à 28, donc est 7e de Pro League. Donc on fait un petit quiz sous forme de liste, je vous l'avais déjà fait, mais pourriez-vous me donner les 13 équipes, si vous pouvez, ou combien d'équipes pouvez-vous me donner qui accompagnent donc Billière dans cette division de Pro League? Alors, combien tu peux en donner,
Olivier? 5 sur.
Mathilde?
Plus. Allez, 6.
Il y a nos invités peut-être qui veulent participer. Ça peut être très drôle de laisser Mathilde aussi à 6.
Hein. Xavier, tu participes aussi.
Ouais. Non, je vais laisser Mathilde.
Dans en espoir, on va laisser les filles aussi. Ouais, donc c'est très bien.
Garde tes 5, Olivier, quand même, en tête.
Je te le laisse, Mathilde. J'en avais 10, mais je préfère te le laisser.
Tente de nom.
Non, je suis incapable.
Mais tente, non.
Un au moins.
C'est facile. Le leader de la poule, qui est une équipe qui est chère dans le cœur d'Olivier. Une ville.
Ah, Limoges.
Voilà.
Bon, alors vas-y, les cinq autres.
Limoges, Ponto Combo. Ouais. Strasbourg, vu qu'ils ont battu bien, Strasbourg, bien. Ça, Mathilde, t'aurais pu trouver quand même. Tu as Saran.
Ouais.
Tu vas voir Valence.
Valence, ouais. Cherbourg, peut-être aussi.
Ouais.
Cherbourg. Ouais. Tu as Créteil, ils sont pas descendus.
Célesta.
Créteil, ils sont derniers de.
Célesta.
Célesta, je pense qu'ils devaient y être.
Célesta.
Ils sont remontés, je me souviens.
Istres.
Ils sont pas. Ouais. Célesta, oui, pardon.
Oui, il me semblait bien.
Ouais. Istres, non, ils sont montés.
Non, pardon.
Ils sont montés. Tu as. Et après, je sais plus.
Vernon.
Non.
Ou pas.
Non, non, Vernon, ils ont été un petit moment.
Ah, ils ont été, ouais. Ouais.
Besançon, vous avez
Besançon,
oublié.
Oui, bien sûr.
C'est son reine, je crois.
Ah, c'est son reine.
Dijon, Massy, Nancy, Nice.
Oui.
Voilà.
Oui.
Ouais, mais vous étiez pas mal quand même. À part Mathilde qui avait lancé C6. Elle pensait avoir un joker, il n'y avait pas de joker. Donc voilà, c'était juste un petit mot sur le BHB qui fait une saison plutôt correcte, hein, puisqu'ils sont remontés la saison passée.
C'est surtout ça.
Le maintien est pas acquis, mais il est en bonne voie. Donc.
Et on n'a pas dit, mais ils changeaient de coach. On l'a pas dit la semaine dernière, donc ils changeaient de coach. Ils ne reconduisent pas à la fin de la saison le coach. Donc je vais te laisser prononcer le nom, Marc.
Non, mais je t'en prie.
Dragan Mihailović.
Mihailović. Tu maîtrises.
C'est ça. C'est pas mal.
Moi ça va.
Ouais. Moi aussi, tu vois, je l'ai bien prononcé.
Voilà, donc il continuera bien sûr jusqu'à la fin de la saison avec le Biron de Balpo Pyrénées, mais il ne sera pas sur le banc de touche l'année prochaine.
Exactement, avec plaisir.
Mis en évidence cette saison quand même plutôt correcte et il y a encore quelque chose à jouer pour le Biron de Balpo. Ils sont pas très loin des places playoffables, si je puis me permettre.
C'est joli.
C'est pas très joli.
Après, de là espérer la montée,
c'est pas le but. Hein. Le but, c'est de se sauver le plus tôt possible, existant, parce que l'effectif a été quand même grandement renouvelé. Donc la saison est plutôt bonne. Donc on est content pour eux et on espère qu'ils vont vite se sauver pour prendre plaisir sur la fin de saison. Quoi.
Super. Allez, merci Marc. Dernière chronique de cette émission et je vais lancer un seul jingle, je vais essayer.
Le pari gagnant de la semaine, c'est dans COP et Match.
Ouf, c'est bon. Un seul jingle et c'est le bon.
Voilà.
Marc.
Alors, un petit point déjà sur les résultats de la semaine passée.
Ouais, puisque... je tiens à ce résultat.
Il y en a deux qui ont trouvé le bon écart de points entre... entre la section et Clermont, donc une défaite de moins de 10 points de la section. Donc Mathilde et Xavier qui étaient déjà un peu en tête quand même de ce classement.
Oui. On creuse l'écart.
J'ai
dit quoi ? J'avais dit victoire de la section ?
Ouais, victoire de la section. Toi, t'étais, moi, j'étais pas loin pour une fois parce que
je t'avais mis match nul, toi, non ?
Le match nul, je pense qu'il aurait été mérité quand même au vu du match. Si, voilà, je pense que c'était quand même le score. Je me suis mis un point parce que c'était le score qui devait. Non, je plaisante, Olivier. Il y a cru, Olivier, il y a cru. Non. Donc, deux points pour.
Déjà que cette compétition est quand même. Il y a beaucoup de coups bas, je trouve. Dans cette compétition, tu commences à tricher maintenant.
Je ne triche pas.
Pas parce que tu perds.
Voilà.
Alors, on précise quand même pour nos invités et nos auditeurs qu'on fait un classement tout au long de la saison des différents pronostics et que le dernier de ce classement invite à bouffer toute l'équipe ainsi que tous les invités à la fin de la saison sportive.
Et pour l'instant, bien pris note.
Et pour le moment, c'est Olivier qui régale.
Voilà. Bon, enfin, il a qu'un point de retard sur moi, donc je ne vais pas trop m'avancer et jubiler. Donc, c'était pour le petit pronostic sur un Fédéral 1, en fait. Donc, puisqu'il y a un autre derby la semaine prochaine. Entre Lannemezan et Bagnères, donc Lannemezan qui est 6e et qui est première en boxe a priori, et Bagnères de Bigorre qui est 9e, donc j'attends vos pronos
sur 5 cartons rouges.
Oh, mais j'allais faire la vanne. Dont 2 pour Tarbes d'ailleurs, qui étaient là par hasard. Mais,
alors Mathilde.
Mathilde.
Alors je vais mettre victoire de Bagnères de moins de 10 points.
À l'extérieur. Hein.
Ah, ok. Bah, pas peur. Et tu peux nous donner quelques éléments sur le classement, la forme du moment des deux équipes. Moi, je m'attache beaucoup à ces éléments-là.
Je te l'ai dit
qu'ils étaient
sixième.
Ouais, mais combien de victoires d'affilée, tout ça
Non, ça, j'ai pas. Okay, je suis pas rentré dans ce détail. Et Bagnères, ouais, il est fourbe. D'habitude, je le fais, mais non, là, je l'ai pas fait. Donc voilà, 9e et 6e sur le classement.
Xavier, un pronostic ou dire des bêtises ?
Allez, victoire de Bagnères de moins de 10 points.
Pareil que Mathilde. Tu suis Mathilde, ici, on se dit comme ça.
Ouais, non, allez, juste par pur esprit de contradiction, victoire de Lannemezan.
Ouais,
allez, et victoire de moins de 10 points aussi. Ça sera serré ce match, je le sens bien.
Marco. Toi,
Olivier.
À toi. C'est à moi. Moi, match nul.
Tu vas bien y arriver.
Mais le match sera nul, mais le score, c'est quoi ?
Match nul. Et je te l'annonce 17 partout.
Ok, c'est bien noté.
Si c'est ça, j'offre le resto.
Ah, c'est enregistré.
On va pas le dire deux fois.
À tous les invités.
Ouais, ok.
Et toi, du coup ?
Et moi aussi. Et moi aussi,
je t'invite aussi à toi. Toi, t'es sympa, toi, t'es conseiller.
C'est quoi ? Quelle est ta question, Marc ?
Quel est ton pronostic ? Voilà, le pronostic pour Lannemezan.
Victoire de Lannemezan de plus de 10 points.
Ok. C'est bien noté ?
C'est bien noté, Marc ?
Oui, c'est bien noté.
Alors, pour vous aider, si vous voulez, Lannemezan est actuellement 6e au classement et Bagnères 8e. Et donc.
Et Cyprien, tu viens d'où ?
Ce serait intéressant de lui demander entre le derby de la Bigorre, entre Lannemezan et le CL et Bagnères, qui va être victorieux.
Ouais.
Je touche pas au rugby, je touche pas. Je regarde que le foot.
Merci Marc, on a
fini plaisir. Cette
chronique, super. Eh bien, il va nous rester quelques minutes pour terminer cette émission. On va redonner la parole à nos invités.
Alors,
Benjamin, oui, Mathilde.
J'ai un petit message pour Cyprien, un petit message personnel. C'est quand que tu lâches les freins ?
Cyprien, quand est-ce que tu lâches les freins ?
Quand je me serai remis de mon épaule et je la doublerai sur la ligne, sans problème.
Ah ben, tu as pu identifier l'émetteur du message ?
Sans problème, c'est toujours les mêmes personnes qui avancent pas.
C'était pas moi, je l'offre.
Bon, c'était le petit clin d'œil. Donc Benjamin Lacaze, président du guidon cyclosportif pyrénéen, Cyprien Lantome de la cellule course du GCP, un petit mot pour conclure cette émission. Vous voulez remercier aussi vos partenaires sponsors qui vous soutiennent tout au long de la saison et il en faudra d'autres, a priori.
En effet, comme on le disait tout à l'heure, on cherche des partenaires pour la course, pour trouver des lots, des dotations, mais on cherche aussi des partenaires et des mécènes club pour avoir des sponsors pour faire vivre le club. Et c'est très compliqué, donc on souhaite vivement remercier certains partenaires qui sont fidèles depuis plusieurs années. Donc on a la société Big Band Touche à Sécole, donc ça tombe bien, puis c'est une société qui est à cheval sur la Bigorre, le Béarn, et aussi dans le sud des Landes, donc on tient à la remercier vivement de son soutien. On a les salons Armélé, salon de coiffure à Artigues-Louves aussi, qui est un sponsor fidèle du club. Et au niveau cycle, on a le magasin Béarn Cycle à Lons, qui est voisin d'ici d'ailleurs, qui nous soutient depuis plusieurs années. On souhaite aussi remercier la fédération UFOLEP puisqu'elle nous soutient dans l'organisation, la logistique de l'épreuve que l'on va faire donc le dimanche 8 mars prochain. Et on a un équipementier qui est une société marseillaise, désolé, mais on l'a pas fait exprès, qui est la société Poly et qui aussi nous file un coup de main pour organiser notre épreuve. Donc merci à tous les partenaires, à tous nos soutiens actuels et puis au futur, au prochain, que j'espère nous rejoindront. Et merci encore à Radio Inside qui a toujours été fidèle et qui nous a toujours invités pour participer à cette émission qui est toujours aussi sympa.
Ben merci à vous. En tout cas, nous on a passé un très bon moment. Cyprien, dernier mot aussi pour clôturer cette émission.
Venez faire la course le 8 mars et puis on vous communiquera les résultats. J'espère qu'il y aura des bouquets pour le club. Et puis on essaiera de vous communiquer à chaque fois qu'on en a.
Bien entendu, on relayera pendant l'émission. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose ? Allez, pour terminer cette émission.
Non, je voulais savoir d'où était Cyprien avec cet accent.
C'est ça. Je crois qu'on commence à savoir. Mathilde, Marc, un petit mot pour clôturer cette émission. Vous avez passé un bon moment ?
On a passé un très bon moment. Les invités étaient très agréables et nous ont donné envie de faire du vélo quand même. Moi, j'avais pas besoin de ça pour en faire un petit peu. Mais,
et de regarder le Tour de France.
Mais oui, aussi.
Si je le fais. Donc c'est
pendant la sieste. Voilà.
Par contre, tu nous as toujours pas donné envie de regarder l'OM, hein, Cyprien. T'as pas été bon de ce côté-là.
Ça vous changera de voir des victoires.
C'est ça. Allez, on va se quitter pour ce soir. On va prendre une petite photo. On va la partager sur les réseaux sociaux. On va faire un petit peu de pub pour nos amis du guidon cyclo-sportif pyrénéen. Pour l'heure, c'est le retour des hits sur Radio Inside avec Téléphone puis Soprano. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute de Radio Inside.